je vais faire appel à nos souvenirs beaucoup plus lointains et parler du soleil, parce qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, mais d'où vient l'énergie du soleil? Ça, c'était une question qui se posait. Comment est-ce qu'il arrive à fournir autant de chaleur, d'énergie pendant une telle durée? Et avant les grandes découvertes scientifiques d'il y a un peu plus d'un siècle, c'était une question que les scientifiques avaient sans arrêt devant eux et n'arrivaient pas à résoudre avant la découverte du fameux E égale MC2 d'Einstein, qui est relativement connu mais que personne ne comprend réellement. On essayait en tout cas de calculer mais quelle est la quantité de charbon qu'il faudrait pour que le soleil brûle, et on n'arrivait pas. Et il a fallu vraiment ces avancées de la science pour nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur du soleil, que je ne vais pas expliquer ce matin, je vous rassure, et qui puisse fournir toute cette énergie. Et si je veux faire un parallèle, d'où vient l'énergie nécessaire pour que le chrétien, lui aussi, brille dans ce monde? Et il faut une certaine énergie. Qu'est-ce qui va permettre à des personnes imparfaites, des personnes contaminées par le mal, de faire le bien et de briller dans ce monde? Quelle est la source d'énergie qui va permettre aux chrétiens de refléter Christ, cette lumière parfaite? Nous continuons notre parcours de l'épître de Paul à Tite. Et après sa sortie de prison, Paul s'est rendu sur l'île de Crète, au sud de la Grèce. Alors il n'est pas allé pour passer des vacances, mais pour annoncer l'évangile, encore que ce ne soit pas incompatible. Et il laisse son collaborateur Tite organiser les églises avec les instructions suivantes. Les Crétois ont une horrible réputation, et c'est justifié. Mais ces personnes, lorsqu'elles deviennent chrétiennes, doivent être des modèles de sagesse en église et dans la société, avec des relations harmonieuses et exemplaires. Le but, c'est de montrer que la foi chrétienne est belle, qu'elle n'est pas dangereuse pour la société, mais qu'elle est bonne, qu'elle favorise le développement de ce qui est bon. Question, comment est-ce possible? Quelle est la source d'énergie qui permet de briller de cette manière? Comment faire qu'un morceau de charbon puisse briller davantage que la neige au soleil? Alors on va lire la réponse dans la suite donc de cette lettre à Tite. On avait déjà lu le début du chapitre 2 il y a deux semaines, en voyant que les versets 11 à 13 montraient la source de notre force et de notre motivation, mais on va reprendre ce texte un peu plus en détail. Donc on va lire Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Chapitre 2, verset 11, la grâce manifestée. Paul avait au chapitre 1 décrit des faux docteurs, des enseignants qui s'écartent de l'évangile et qui ont une conduite déplorable. Puis il continue, début de Tite 2, « Toi, au contraire !» Et il donne une série de recommandations. Et puis verset 11, la grâce de Dieu qui se révèle comme source de salut. La grâce qui nous sauve, le salut n'est possible que par la grâce de Dieu. Tout être humain est condamné par la justice de Dieu à cause de ses fautes, de ses erreurs, ses actions ou paroles mauvaises, ses manques d'amour, son égoïsme, son refus de considérer Dieu comme le vrai Dieu, créateur et maître de l'univers. La Bible appelle toutes ces choses péchés. Tout être humain est donc condamné par la justice divine, condamné à cette séparation d'avec Dieu, séparation d'avec la source de la vie. Il ne reste que la mort. Et Jésus est mort, crucifié. Il a subi la condamnation pour les fautes de tous ceux qui croient en lui. Il a payé à leur place, Dieu sauve par grâce. La grâce est un cadeau immérité, un pléonasme, ça vaut le coup de le dire. Je ne peux rien faire sinon ne le recevoir. Je ne peux que recevoir ce que Dieu a fait et ce qu'il m'offre. Elle n'est pas réservée à une élite, à certaines personnes, aux plus jeunes ou aux plus vieux, aux juifs, aux riches, à telle ou telle nationalité, aux plus intelligents, pour tous. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un peuple issu des descendants d'Abraham, le peuple juif. Mais l'objectif, c'est par ce peuple de bénir toutes les nations, et nous avons eu un petit aperçu ce matin de ce que Dieu fait, et il bénit encore d'autres nations en permettant que l'Écriture, sa parole, arrive aussi dans ces nations. Le texte nous dit que la grâce de Dieu s'est révélée. Ce mot utilisé évoque une lumière dans la nuit, ou alors cette lumière qui arrive lorsque le jour se lève et marque la fin de la nuit. Plusieurs fois dans la Bible, la nuit décrit l'éloignement de Dieu, la pratique du mal, et sans Dieu, nous sommes tous dans les ténèbres spirituelles, incapables de voir la lumière, incapables de vivre d'une manière juste et bonne. Mais la nuit a pris fin. Dieu lui-même est venu. Jésus, Dieu fait homme, est venu sur la terre pour apporter la lumière de la justice, la paix, la vie. Dieu a créé l'univers, il a créé toute forme de vie. Tout était très bon, harmonieux. Sous l'instigation du diable, l'homme s'est révolté, refusant l'autorité de Dieu. Et depuis, le monde est plongé dans les ténèbres. Mais il y a 2000 ans, la grâce de Dieu, cette lumière est apparue au milieu des hommes. Dieu est venu au milieu de nos ténèbres pour mourir à notre place, subir la justice de Dieu afin que nous ne soyons pas condamnés. La grâce de Dieu. Toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ pour son pardon, pour sa vie comme pour sa mort, reçoit ce pardon et la vie éternelle. Ce matin, si quelqu'un n'est pas certain de son pardon, il est urgent et il est nécessaire d'être au clair. Venez me voir ou venez voir un des responsables de l'Église à la fin du culte parce que c'est vital. La grâce de Dieu. Trois conséquences pour nous. Première conséquence, un même besoin et un même salut pour tous. En préparant ce message, j'ai pensé à un certain Claude Charme, né en 1944. Il s'est distingué en connaissant des établissements pour mineurs, judiciaires, puis les maisons de correction. Malgré tout, il réussit son apprentissage de mécanique, et ça lui ouvre les portes de l'armée de l'air. Malheureusement pour lui, un vol de moto lui ferme définitivement les portes de cette institution. Et il continue dans la délinquance. Il accumule les vols. Et un jour, il cambriole une maison. La propriétaire est sur les lieux. Affolé, il la frappe. Il la tue. Le 29 avril 1960, il est condamné à mort. Il est ensuite gracié par le général de Gaulle, alors président de la République française. Mais d'après les lois de l'époque, il méritait clairement la mort. Il ne méritait pas d'être épargné. Mais il a pu échapper à la guillotine par grâce. Dans ce cas-là, grâce présidentielle. Alors bien sûr, on peut se dire, c'est vrai que lui au moins, avec tout ce qu'il a fait de mal, il a vraiment besoin de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Mais comment? Il a vraiment besoin du pardon de Dieu avec tout ce qu'il a fait. Comme moi. Comme chacun. Meurtrier, voleur, délinquant. Mais finalement, au même point que nous devant Dieu. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3,15. Personne n'est meilleur que cet homme. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Nous étions comme lui, touchés par le mal, aveuglés par l'orgueil, l'égoïsme, incapables de faire le bien, incapables de mériter ce pardon de Dieu, éloignés de lui par nos pensées et nos actions. Et comme cet homme, nous avons besoin d'une grâce. Pas une grâce humaine d'un président, la grâce du juge suprême, le Dieu de l'univers, qui a fait justice par la mort de Jésus-Christ. Personne ne peut se vanter d'être chrétien. Personne ne peut se vanter de ses actions. Tout est par Dieu, par grâce, avec ce privilège d'être tous à égalité devant lui. Deuxième conséquence, Jésus-Christ, seule source de salut. À la différence du cas de Claude Charme que j'ai évoqué, la justice a été rendue pour nos fautes. Il a fallu la mort de Jésus, Dieu fait homme, qui a pris notre place. Dieu a manifesté sa grâce en Jésus-Christ, mais en personne d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen d'être pardonné. Ni nos bonnes actions, ni nos prières, ni notre travail sur nous-mêmes, ne peuvent nous faire recevoir le pardon de Dieu. Seul Jésus sauve. Seule la mort de Jésus permet le pardon. Seule la foi en Jésus, cette pleine confiance qu'on lui accorde, peut sauver. Troisième conséquence, tous en ont besoin. Toutes les personnes qui ne saisissent pas cette grâce sont perdues. C'est vite dit, mais c'est vraiment terrible. Ce voisin, ce collègue tellement sympathique, tellement serviable, tellement agréable, qui fonce tout droit vers l'enfer s'il n'a pas reçu cette grâce. Sinon, le salut n'est pas par grâce, il est par les œuvres, et pas par Christ, mais par nos œuvres. Lorsque nous pensons peut-être à une personne qui mène une vie dissolue et qu'on dit « Ah, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de l'Évangile », c'est vrai, mais comme toutes les autres personnes qui ne connaissent pas Christ. Environ 9700 personnes au Locle, environ 36 000 à Latio, et plusieurs centaines au pont de Martel. Tous en ont besoin. La grâce de Dieu s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes. Verset 12, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Gracié, Claude Charme a commencé une nouvelle vie. Il a entamé des études universitaires, il a obtenu ce qu'on appelait à l'époque une licence, un bachelor maintenant, une maîtrise, à peu près un master, et il a été libéré en 1974. Il préparait un doctorat en droit, il est devenu secrétaire d'avocat, puis journaliste et professeur de droit. Une vie avant, la grâce, une vie après. La grâce de Dieu nous éduque. Elle nous révèle à quel point chaque péché est horrible. Même celui qu'on excuse, même cet énervement passager, même les « oui, mais c'est mon caractère », même les paroles dures que nous excusons, même nos manques d'amour, même nos « tout le monde le fait ». La grâce nous montre l'échec d'une vie sans Dieu, l'échec d'une vie qui met l'homme au centre, mais en le déconnectant de son Créateur. Tout ce qui va favoriser mon épanouissement personnel aux dépens des autres. Et la grâce nous pousse à prendre conscience que nous oublions Dieu tellement souvent. Et elle nous pousse à faire ce choix. Je veux que Dieu soit toujours plus dans ma vie. Je renonce à l'oublier. Je veux renoncer aux passions de ce monde, comme dit le texte. C'est-à-dire, je ne veux pas m'attacher à ce qui est passager. Je ne veux pas rechercher ma valeur, le sens de ma vie dans des biens matériels, dans des actions, dans mon confort, dans mes loisirs, dans mon travail. Le texte nous dit que la grâce enseigne, ou plus précisément qu'elle éduque. Elle apprend à renoncer au mal par l'action du Saint-Esprit en nous, l'action de sa parole lorsqu'on la lit personnellement, lorsqu'on y est exposé dans le cadre de l'Église notamment. Elle nous éduque par le rappel de la mort de Christ et chaque fois que nous prenons la scène, c'est un temps précieux qui nourrit notre âme parce que nous nous souvenons ce qui s'est passé et ce que Christ a payé pour nous. Parfois, Dieu parle aussi par les épreuves. Dieu éduque. Nous devons parfois passer par des moments difficiles. Alors, je précise deux choses à ce sujet. C'est que les épreuves ne sont pas un jugement de Dieu, puisque le chrétien est libre de tout jugement. Si Dieu éduque, le but est de nous faire progresser, jamais de nous condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est payé à la croix. Et la deuxième réflexion, c'est que nous apprenons par nos difficultés et nos épreuves. Nous vivons dans un monde qui est touché par le mal. Nous avons un corps qui se dégrade. Nous avons une société qui est dure, qui est injuste, qui est marquée par le mal. À travers nos difficultés, Dieu nous éduque. Il nous transforme pour qu'à travers tout ce mal, qui est mauvais, eh bien, il puisse, malgré tout, en ressortir un bien. La grâce est une offre gratuite parce qu'elle nous offre des choses que personne ne peut payer. aucun être humain. Mais cette grâce coûte, parce qu'elle nous demande de renoncer au mal, de renoncer à tout ce qui, dans notre vie, n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est belle, qui est parfaite. Elle nous pousse aussi à attendre, verset 13, une deuxième révélation, hein, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, et la révélation de la gloire de Dieu. La première révélation était discrète avec cette venue de Jésus à Bethléem dans cette étable. Très discrète. Oh, tellement lumineuse pour ceux qui ont su voir, mais discrète. La seconde sera plus visible. La grâce nous conduit à vivre dans ce monde, vivre dans cette société, sans se laisser influencer par toutes ces fausses promesses, mais à regarder les promesses que Dieu fait. Et pour nous, les applications. Suis-je prêt à me laisser me remettre en cause? Suis-je prêt à me laisser enseigner, éduquer, ou est-ce que je connais tout? Est-ce que finalement l'enseignement, c'est surtout important pour les jeunes? Ou est-ce que c'est là aussi pour moi? Parce que Dieu doit travailler en moi. La grâce de Dieu nous transforme, elle nous rend participants de ce changement qui se produit en nous. Elle demande des efforts, des renoncements pour ce qui est encore meilleur. Je reprends une image de John Piper, un pasteur et enseignant américain, qui dit que nous jouons près d'une flaque d'eau. On peut dire une eau sale, une eau insalubre, qui nous rend malade. Nous, on refuse de quitter ce petit lieu, cette flaque boueuse qui est vraiment pas bonne. Et on refuse de quitter ce lieu, et on refuse d'aller près de cette plage magnifique, le sable blanc. On préfère notre petit coin. On refuse le plan plus grand que Dieu veut réaliser en nous et avec nous. On s'attache à notre vie. Quels sont les renoncements aujourd'hui? Il y a 2 semaines, on était rendu attentif lors d'un séminaire à l'idole du plaisir. Mon plaisir, mes droits, mes envies. Et toute cette idole est largement nourrie, largement encouragée par la publicité. Je suis le centre de mon monde, je le vaux bien, et mon plaisir est tellement important. Si je participe à une activité, si je fais un choix, si je m'engage dans telle ou telle action, ça va être en fonction de ce que j'en retire. C'est bon pour moi. En plus, c'est conforme à mes désirs, donc c'est nécessairement bon. On parle aujourd'hui du droit à l'enfant avec certaines méthodes permises par la science, sans se demander ce qui est bon pour les autres. Gestation pour autrui, où la mère porteuse devient simplement une machine à porter un enfant au mépris de sa personne. On parle du droit de maîtriser son corps, du droit à l'enfant et au désir d'enfant, et on va valoriser l'avortement en oubliant les droits de l'enfant à naître, que l'on va tuer. On cherche sa joie profonde, on cherche son épanouissement dans les loisirs, le sport, les amis, où il y a d'excellentes choses. Mais est-ce que c'est là le but et le centre de notre vie, au point de tout sacrifier à cela? Le risque est que cette mentalité infiltre l'Église. Il est possible de voir le culte comme un loisir. Est-ce que cela va m'apporter quelque chose? Est-ce que j'en retire un avantage? Sinon, à quoi bon venir si j'ai aucun avantage? Nous avons besoin de ce changement de mentalité. Paul parle de l'espérance de la révélation de la gloire de Dieu. Est-ce que c'est mon espérance? Est-ce que c'est mon désir? Est-ce que c'est ma vraie joie? Est-ce que j'attends avec impatience cette venue de Dieu, cette révélation pleine de Dieu? Ou est-ce que j'attends avec impatience le week-end, les vacances du mois prochain, ou la prochaine saison de ma série préférée? L'idée, c'est pas de chercher à culpabiliser tout le monde, moi le premier, mais de dire où est-ce que j'en suis? De faire un diagnostic sincère, honnête de l'état de mon cœur, de l'état de notre cœur. Et quand je dis nous, c'est vraiment pas pour faire beau. Je pense que j'ai pas encore tout compris de ce que Dieu va faire. Parce que sinon, je serais tellement plus impatient de voir la réalisation de son plan. Et je serais moins attaché à mon confort et à ma vie sur terre, forcément. Et l'espérance doit nous faire avancer. Tout ce que je peux vivre ici, déjà, ce n'est rien par rapport à la joie présente de cette communion avec Dieu. Mais ce n'est surtout rien par rapport à ce bonheur futur du règne de Dieu, de cette gloire qu'il va manifester. Nous avons besoin d'être enseignés, éduqués, transformé par la grâce de Dieu. Dans notre course effrénée, sachons nous arrêter pour réfléchir. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me motive? On peut placer ces réalités devant le Seigneur. Réfléchir à qui il est. méditons sur cette gloire, sur cette éternité qu'il nous propose. Lisons sa parole, regardons ses promesses et apprenons à chérir toutes les valeurs du royaume de Dieu, sans nous laisser aveugler par cette flaque d'eau là qu'on tient tellement. Souvenons-nous aussi de celui qui a permis notre pardon, notre salut. Paul insiste, hein, je relis verset 14, quand il parle de Christ, il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Jésus n'est pas premièrement venu montrer un exemple d'amour ou prononcer de belles paroles, même s'il l'a fait. Il est venu donner sa vie pour nous purifier du mal. Il est venu donner sa vie pour nous purifier du péché et de toutes ses conséquences. Il nous délivre de toute désobéissance, de toute iniquité, de tout péché. Tout péché est pardonné, même celui dont j'ai honte, même celui dont je n'oserais jamais parler à quelqu'un, même celui que j'ai déjà commis, pour lequel j'ai déjà demandé pardon 1758 fois et que je viens de refaire, même celui-là. Il nous rachète de toute iniquité. Le but ? Faire de nous son peuple, le peuple qui lui appartient. Donc le peuple dont il est le maître, mais son peuple précieux. Il le considère comme important. Chacun de ses enfants est important aux yeux de Dieu. Nous sommes son peuple. Chacun de ses enfants doit aussi reconnaître que sa vie ne lui appartient plus parce que nous appartenons à Dieu. Elle est entièrement pour lui. Et l'Église est précieuse. Ce rassemblement de ceux qui appartiennent à Dieu est important pour lui. Peut-être qu'il est méprisé par les hommes. C'était bon aussi avec le passé. Il y a tellement mieux à faire le dimanche, tellement mieux à faire en semaine, tellement mieux à faire que ces relations comme ça. Aux yeux de Dieu, c'est le peuple précieux qui se rassemble. Et gardons-nous de mépriser ce que Dieu a racheté à grand prix. Un peuple qui se caractérise par son zèle, par son ardeur, hein, selon les traductions, pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire pour ce que Dieu aime. La confiance déjà. La foi est déjà cette bonne œuvre. Tout ce qui manifeste aussi l'amour les uns pour les autres que Dieu aime. L'importance donnée aux personnes, à sa famille, l'attitude au travail. Faire le bien lorsque c'est possible. Ce que Dieu aime. La grâce nous enseigne, la grâce nous rend capables de ce zèle et de cette ardeur pour Dieu. Elle va transformer nos désirs pour toujours plus les rendre semblables à ceux de Christ, si nous acceptons ce travail de nous attacher à lui. Je termine par quelques commentaires sur la fin du texte que nous avons lu. Verset 15, voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Tite doit rappeler des vérités connues de ses auditeurs. L'enseignant biblique doit rappeler, sans cesse rappeler, ce qui est conforme à la vérité révélée dans la Bible. Je dois rappeler ce qui est connu à des auditeurs oublieux, aveuglés par leur orgueil, leur suffisance, leur tolérance à leurs propres péchés. Et pour le faire, je dois moi-même me laisser enseigner par Dieu, parce que je suis aussi oublieux, aussi aveuglé par mon orgueil, ma suffisance et ma tolérance à mon propre péché. Donc nous devons chacun être prêt à recevoir cet enseignement, encore et encore. Sans mépriser ce qui nous enseigne, parce que c'est facile de mépriser. Paul, c'est un homme du passé, il n'a rien compris, il n'aimait pas les femmes, il était pris dans des problèmes qui sont totalement dépassés, totalement étrangers à notre culture, ça n'a plus rien à voir maintenant. C'est facile de mépriser, je méprise, je n'obéis pas, je justifie mon péché et je continue à agir de manière fausse. Que personne ne te méprise. La grâce nous enseigne. Elle nous éduquait. Une partie de cette éducation vient par la prédication de la parole, par l'enseignement. Il y a aussi d'excellents livres, mais pas simplement ceux qui vont être tout à fait d'accord avec nous. Enseignement que l'on reçoit, qu'on transforme en prière, parfois en supplication, et en action. Nous sommes invités à être réceptifs non seulement à la prédication au sommet de l'adoration de l'Église réunie, hein, parce que c'est notre manière de recevoir la parole de Dieu qui montre notre adoration. Mais il y a ce désir d'écouter, ce désir de comprendre cette parole. Et puis, toute la semaine, ce désir de la pratiquer. Et Paul donne quelques exemples. Le verset 1 et 2, le chrétien se soumet aux autorités. Et c'est vrai qu'il existe des exceptions, il en parle tellement souvent. Mais la Bible parle surtout du cas habituel et très peu des exceptions. Je me soumets aux lois, impôts, circulation routière au hasard et à tout le reste. Je montre que ma vie est transformée par mon implication dans ce monde. Être prêt à toute œuvre bonne dans cette société touchée par le mal. Quel programme. Puis il montre aussi que nos relations sont appelées à être transformées. Nous ne dénigrons personne, nous ne médisons de personne selon les traductions. On ne parle pas mal des autres. Les péchés de la langue sont souvent dénoncés. Jacques chapitre 3 est terrible. Encore plus pour les enseignants, mais pour tout le monde. Le livre des Proverbes, hein, si vous lisez une fois le livre des Proverbes en entier, comme ça, à 2-3 versets par jour, avec un ou deux blocs de temps en temps, on arrive à lire sur l'année, il y a tellement de fois où les péchés de la langue sont dénoncés. Les évangéliques, hein, nous sommes très, très complaisants envers cette forme de péché. Pourtant, la grâce me rappelle que je n'ai aucune supériorité à afficher par rapport à mon frère ou ma sœur, même par rapport à un non-croyant. J'ai reçu la grâce de Dieu. Je n'ai pas de mérite. Comment est-ce que je vais parler mal de quelqu'un qui finalement est tout à fait comme moi? Alors, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, mais évidemment, certaines paroles, certains choix, certaines actions sont critiquables à la lumière de la parole de Dieu. Mais attention à nos jugements hâtifs, attention à nos condamnations injustes, méchantes, et lorsque nous touchons les personnes elles-mêmes. La grâce de Dieu nous éduque. Que Dieu me vienne en aide. Et puis être conciliant, courtois, aimable envers tous les hommes et envers toute personne. Prenez ces versets, peut-être chaque matin de cette semaine. Voilà mon programme. Je vais être conciliant, courtois et faire preuve d'amabilité envers toute personne que je vais rencontrer. Moi, ça me pousse à la prière et à la peur, mais à la prière pour que Dieu agisse. La grâce reçue de Christ nous éduque à renoncer au péché et à vivre entièrement pour notre Dieu. Il y a ce danger d'une grâce à bon marché, qui n'est pas la vraie grâce. Reçue gratuitement, la grâce transforme entièrement. Une éducation qui nous rappelle que nous devons nous laisser être transformés par Dieu. Nous sommes en marche vers ce qui plaît à Dieu, en marche vers ce qui est digne de lui, en marche vers la sainteté. J'ai posé la question tout à l'heure, hein, en parlant de cette mission de titre, comment faire qu'un morceau de charbon brille davantage que la neige au soleil? Bien, c'est possible. Il suffit de trois petites choses, de très haute pression, de très haute température. Un morceau de charbon, sur le soumet à très haute pression et très haute température, se transformera en diamant. Il faut juste qu'il soit soumis à cela, le tailler, et c'est fait. Par exemple, s'il est à plus de 100 km de profondeur sous la terre, la grâce nous éduque. Parfois, elle nous fait passer par la pression et la chaleur de l'épreuve. Parfois, elle nous attriste profondément face à notre péché. Mais le but est que nous soyons transformés en un diamant qui brille à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit agit en nous. Et c'est par lui seul que nous pourrons briller en reflétant toujours mieux la lumière de Christ. Alors continuons nos efforts pour rechercher ce qui plaît à Dieu. Luttons contre nos tendances à faire le mal. Ne minimisons ni le péché ni la grâce de Dieu, ce pardon extraordinaire. Recevons cette grâce qui donne la paix, qui nous éduque, pour que nous reflétions Christ dans ce monde. La grâce reçue de Christ nous éduque à renoncer au péché et à vivre entièrement pour Dieu. Je propose quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Merci pour cette grâce. Merci notre Dieu pour nous accorder ce pardon. Merci pour faire de chacun de nous tes enfants. Chacun qui reçoit cette grâce devient ton enfant bien-aimé. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Merci aussi de nous transformer à ta gloire. Merci pour ta patience. Et parce que l'œuvre de ton esprit se continue, nous pouvons compter sur toi. Donne-nous de toujours plus être émerveillés, non seulement par cette grâce présente, mais par cette aussi révélation à venir. Et que cela soit aussi un stimulant pour notre vie, pour chaque jour, afin que nous ayons à cœur de t'honorer et de laisser toujours plus le Saint-Esprit agir en nous. Amen.